Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tatin
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Lionel Charbonnier, Laure Le Payeur, Roland Courbis, Fred Hermel qui était avec nous il y a quelques instants pour le débat lancé par Berbatov lors d'une interview. Karim Benzema est-il sous-estimé? Alors ça enflamme bien entendu le plateau de l'After. Et nous ont rejoint également Simone Rovera. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Julien Laurence également.
Salut,
est
Simone.
Avec nous. Salut Julien.
Salut à tous.
Ça va Julien?
C'est Julien.
Salut
Julien. Super.
Salut.
Salut messieurs.
Alors, suggestion qui nous est venue du hashtag Mon After, vous le savez, on fait des propositions de thèmes, de thématiques, de sujets, de débats pour l'After tout au long de cette période de confinement, et pas que d'ailleurs pendant la période de confinement. Et alors ça, mon gars, ça a enflammé Twitter pendant toute l'après-midi. Les plus gros gâchis du foot, voilà, ils sont passés à côté de leur carrière malgré leur talent immense. Voilà, c'est une idée qui a été suggérée. Qui pour vous est le plus gros talent du foot? Alors, me faites pas une liste avec 10 mecs. Choisissez-en un, c'est pas facile, mais il faut en choisir un. Alors, nos consultants, bien entendu, notre Dream Team, nos drôles de dames également en ont choisi. Vous en avez choisi également. Vous nous appelez au 32-16 pour nous les donner. Tiens, on va commencer par toi, Roland. Qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot?
Bah, si tu veux, il y en a toute une liste, bien évidemment, mais bon, j'ai pas choisi un joueur que je n'ai pas eu le plaisir de côtoyer. J'ai choisi un que j'ai eu justement le plaisir de côtoyer, c'est Paganelli. Paganelli que j'ai vu démarrer à l'âge de 14-15 ans à la Maison des Jeunes d'Avignon et dans un tournoi à Montaigu, un tournoi minime, c'était tout simplement exceptionnel ce qu'il pouvait faire. Si on peut faire la comparaison des joueurs français que nous avons connus ensuite, je pense pas que Paganelli aurait été inférieur à Ribéry, qui pour moi a fait partie des très bons joueurs. Et j'avais essayé à Toulon de remettre en place un duo avec Laurent Rousset, et malheureusement ça avait pas marché, parce que peut-être, j'ai dit bien peut-être, on avait été un peu trop pressé avec lui, on l'avait utilisé un petit peu trop tôt. Donc je trouve que c'est dommage, il aurait pu faire une carrière extraordinaire.
Alors c'est vrai que Paganelli, c'est une autre époque, hein, mais il y avait une grosse hype autour de lui. Hein. C'était vraiment le petit prince, hein, le petit génie du foot français à l'époque, hein, Roland.
Ah oui, c'était quand même exceptionnel parce qu'il avait les qualités de dribble, il était quand même petit mais assez puissant, vif, malin comme un singe. Donc c'était vraiment quelque chose d'époustouflant et malheureusement ça a pas marché longtemps. C'est pour moi un énorme regret, évidemment que pour lui ça doit être encore beaucoup plus que pour moi, mais c'est vrai qu'il est passé à côté d'une énorme carrière.
Ouais, ça vous parle Paganelli ou pas les
bien
amis?
Sûr, ouais. Ah, bien sûr. Et avant sa carrière médiatique, hein, moi je me souviens de lui justement comme l'un des grands espoirs du football français. C'est comme ça que je l'ai connu moi.
Ouais. Le Lionel?
Oui, bien sûr. Moi, je le revois encore quand le coach en parle. Je le revois là sur le côté faire des dribbles, des
avec ses cheveux longs.
Ah ouais, non, c'était vraiment un régal. Tu te demandes, trapu comme ça, il y avait la puissance, il y avait la finesse. Il t'inventait, il était capable. Voilà, il fait partie de ces joueurs qui étaient capables de t'inventer. Fred en parlait tout à l'heure, quelque chose de neuf. C'est-à-dire que tu sais jamais comment les attraper à part avoir un lasso à côté de toi. Et puis à un moment donné, mais quand il marquait pas, il y avait des coups francs dangereux. Il y avait non, c'était. Enfin, moi, je suis d'accord avec le coach.
Mais Roland, tu disais peut-être que ça allait trop vite. Comment t'expliques le fait que justement il est pas confirmé?
Trop jeune?
Non. Je t'ai dit trop vite. On l'a utilisé trop vite,
oui.
Trop tôt.
Ouais.
Donc je pense qu'on
pas
aurait
trop de
pu
pression, tu penses, trop vite.
Être un peu plus prudent. Et ensuite, je vois par exemple Laurent Rousset qui joue au poste de numéro 9 en plus et qui se fait péter les croisés avec une anecdote où il termine le match alors que normalement quand il te pète les croisés, ben, tu sors sur une civière. Non, ben je sais pas par quel miracle il avait terminé le match et après évidemment il s'était effondré dans les vestiaires. Donc pour ce qui est de Paga, je pense que on l'a utilisé trop tôt dans le trop haut niveau trop tôt.
Qui pour vous est le plus gros gâchis du foot? On attend vos suggestions au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Tiens, Simone, qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot?
Écoute, moi j'ai dû faire quand même un vrai top 5.
Non, t'en choisis qu'un, là. Qu'est-ce que tu me fais? Il n'y a pas de top 5 ici.
Non, mais je sais, mais après, écoute, laisse-moi raconter un peu l'histoire, parce que il y en a plein, et mon cœur était vraiment partagé, parce que, bah, sûrement, une des plus grands gâchis, c'est Antonio Cassano, il y a Mario Balotelli, bien sûr, qu'on s'imaginait faire une carrière extraordinaire, un joueur magnifique, mais qui n'a jamais été à l'entente pour moi, c'est Alvaro Recoba, avec son pied gauche. Mais l'histoire que je raconterai, c'est celle du plus grand. Pour moi, c'est lui qui aurait dû devenir...
Le plus gros, même.
Il a été aussi le plus gros, oui, à un certain moment. Mais il devait être l'héritier du phénomène, l'héritier de Ronaldo. Il n'y avait qu'une, et c'était Adriano.
Ah oui.
L'imperatore. Ah oui.
L'imperatore, l'empereur.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors, Simone? Alors, c'est vrai qu'en gros, il a arrêté, on va dire qu'il a arrêté de jouer, on va dire, de façon régulière et performante à, avant 30 ans, à 22, 28, 29 ans, Adriano.
Bah, même à 26, dire. Ouais. Parce que lui, à 26, c'est quand il fait son première, c'est après son retour au Brésil. Lui, il est un joueur, l'histoire, c'est très simple, c'est un des joueurs qui sort du Brésil très pauvre, il sort de la favelas, Villa Cruzeiro, que quand il était petit, il allait dans la rue à nettoyer les chaussures des gens. Il travaillait comme ça pour aider sa famille, pour aller aux entraînements. Il devait vendre des gâteaux qu'il préparait sa grand-mère pour pouvoir payer les bus pour aller à s'entraîner avec Flamengo. C'est une histoire un peu comme il y en a plusieurs au Brésil. Et après, l'histoire, ça commence à devenir intéressante, belle, extraordinaire. On peut dire, à un certain moment, le 14 août... 2000 ans, il a 19 ans, il vient d'arriver à l'Inter, et il y a cette match amical dont je me souviens parfaitement face au Real Madrid, et c'est un partout, il rentre à la fin du match, il a 6-7 minutes à jouer, et il y a un coup franc totalement, vous savez, ce match amical, ce coup franc, il y avait Seedorf qui devrait frapper, il y avait aussi Materazzi qui avait un bon pied gauche qui marquait souvent sur coup franc, et Hector Cooper, l'entraîneur de l'Inter, dit non, mais bon, laissez tirer à Adriano, petit jeune. Et Adriano frappe une coup franc incroyable avec son pied gauche, une vitesse, une force.
C'est quelle année ça, Simone?
C'est 2000 ans, il avait 19 ans. Match amical, et donc il marque 7 buts pour la victoire de l'Inter face à un Casillas qui se retourne et ne sait même pas d'où est parti ses ballons. Et on imagine que c'est le début d'une grande histoire. Lui, après, il marquera aussi pour son début en championnat face à Venezia. L'Inter était égal, là aussi, même un partout, il marque le but décisif. Mais cette année-là, Adriano n'arrive pas à s'imposer. Il part en prêt à la Fiorentina, il marque 6 buts en 15 matchs, qu'il joue en prêt avec la Fiorentina, qui descendra en Serie B cette saison. Mais encore, ça ne suffit pas à l'Inter, même si cette saison-là, elle vit un drame. L'Inter, c'était l'année du 5 mai, donc les départs, les titres perdus à la dernière journée, les départs de Ronaldo, ça ne suffit pas encore pour l'Inter pour se convaincre qu'il va devenir quelque chose d'extraordinaire, ces joueurs. Ils partent donc à Parme. En Parme, il fait une saison et demie, il marque 28 buts. Ils deviennent avec Adrian Mutto les duos les plus prolifiques de la Serie A sous cette saison-là. Ils trouvent un entraîneur comme Cesare Prandelli qui commence à croire énormément en lui. Et en janvier 2004, ils reviennent à l'Inter. L'Inter avait une option, l'avait fait partir pour la moitié, c'était la copropriété à l'époque, les reprendre. Et là commence, on peut dire, à devenir Adriano l'empereur. Avec ses buts, il fait arriver l'Inter 4e. Ça commence une histoire magnifique aussi avec les Brésils. Il joue la Copa América 2004, que le Brésil gagne contre toute attente.
Simon, et si je me rappelle bien, il gagne la Coupe América, ok. Mais après, dans ce fameux match contre l'équipe de France, le Brésil, je me rappelle plus qui était le sélectionneur, joue avec deux numéros 9, dont lui, quatre attaquants, une équipe offensive, et contre la France, il se dégonfle. Je crois que c'est Adriano qui sort, et c'est Juninho qui un milieu de plus et un numéro 9 de moins. C'est pas ça?
Ça, c'est la Coupe du Monde 2006 qui oui. est un peu le. C'était déjà les débuts de la fin, on peut dire, pour Adriano. Parce que là, vraiment, il a vécu ses années meilleures entre 2004 et 2006.
Ce qu'il a fini complètement, ça?
Alors, ce qu'il a fini vraiment. Alors, l'histoire. qui devient triste, c'est que lui, quand même, à 22 ans, donc, il marque 5 buts, si je ne me trompe pas, dans cette Copa América, un but en demi-finale, un but en finale. Les Brésils, donc, gagnent. Lui arrive 6e au Ballon d'Or. Mais 10 jours plus tard, environ de la fin de la Copa América, il rentre en Italie. Il va faire un match des préparations avec l'Inter. C'était les trophées qu'on jouait l'été. Il y avait une période où l'Italie, on jouait beaucoup de trophées avec 3 équipes, Juve, Inter Milan, 3 trophées avec des matchs de 45 minutes. Mmh. Et cet été-là, c'était 2004, lui, le 14 août, à la fin du match, il reçoit un appel du Brésil. Il reçoit la triste nouvelle que son père est mort. Adrien a 22 ans, son père en avait 44. Il était très, très proche. Mmh. C'était vraiment toute sa vie. Une père qui déjà avait eu beaucoup de soucis parce que dans cette favela, il avait pris une balle dans la tête.
C'est là qu'il part en vrille, hein, Simone. Ça a été la cassure à ce moment-là.
Là, ça commence. Ça commence la fin. Même lui, surannée encore, il s'accroche. Il fait encore une Confédération Cup extraordinaire à la fin de la saison suivante. La saison après la mort de son père, même s'il doit partir, il rentre au Brésil, ouais. Il revient plus tard, il arrive avec pas beaucoup d'entraînement, même s'il fait quand même une belle Ligue des Champions. Il fait une belle saison, il a 28 buts, mais il commence à sortir, il commence à boire, il commence à arriver bourré à l'entraînement. Les présidents de l'Inter Moratti commencent à envoyer des gens à les suivre ou l'accompagner dans les soirées pour chercher de le limiter. Il y avait une phrase de Javier Zanetti qui disait, on était tout proche de lui. Les jours où il a reçu cet appel, il a cassé les téléphones contre un mur, il devait rentrer des bars, l'Inter, donc il a passé tous les voyages à pleurer, toute la journée à pleurer, parce qu'il vraiment il avait perdu sa vie. Sa famille, quand même, sa mère, il avait une frère de 4 ans, vient en Europe pour chercher d'être à côté de lui, de l'aider. Mais vraiment, lui, on peut dire que avec la mort de son père, il a perdu toute la confiance qu'il avait en lui. Il restera quand même encore pour une saison ou deux extraordinaire. À début de septembre, un mois après avoir perdu son père, il fait une frappe incroyable face à Palerme à 140 km à l'heure, qui serait la frappe la plus puissante de l'histoire de la Serie A, la cinquième la plus puissante dans l'histoire. Il prend la barre transversale, malheureusement. On peut comme dire que lui, il arrive toujours à côté d'être les plus grands. Alors, et après, à la fin, ça commence vite parce que Mancini ne veut plus de lui. Il rentre au Brésil, il fait un prêt de 6 mois. Il revient, il y a Mourinho qui croit en lui encore. C'est la saison 2008-2009. Mais on l'a déjà perdu. L'empereur s'est perdu.
Ouais, alors sache en tout cas que parmi les noms qui ont été le plus lancés sur le hashtag RMC Live et sur le hashtag même mon after, je pense que le nom d'Adriano, c'est celui qui est le plus revenu parmi les plus gros gâchis du foot. Hein. Tiens, avant d'avoir le tien.
Oui, parce que lui, pour finir, attends, c'est une chose. Parce que lui, après, quand on parle de 2006, la Coupe du Monde, lui arrive à devenir père juste avant. C'est en 2005, je pense. Et après, dans ces périodes, il commence aussi une rupture avec sa compagne, qui se finira totalement l'histoire en 2007. Et donc, il se retrouve en quelques années d'avoir perdu son père et de devenir père et avoir perdu son enfant. C'est vraiment une situation dont il n'arrivera plus à sortir à niveau mental. Et malheureusement, tous ses coéquipiers qui ont joué avec lui l'ont dit souvent, lui, il était souvent perdu totalement dans sa tête. Mais je lui dis souvent, un monsieur qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic, qui en parlant de tous les joueurs qu'il a côtoyés, il a dit sans doute les plus forts que j'ai jamais croisés avec moi, c'était Adriano.
Ouais. Adriano, donc plus gros gâchis du foot pour Simonetti. On va accueillir Karim qui nous a appelé au 32-16. Vous aussi, hein, appelez-nous pour nous dire qui pour vous est votre plus gros gâchis du foot. Salut Karim.
Ouais, salut à tout le monde, salut à Roland. Salut
Karim. Oh, Mathieu.
Comment ça va la famille,
ça va la famille et toi mon ami. Alors, Karim moi, qui chie comme moi.
Franchement, j'en ai plein. Bon, je vais les citer vite fait. Je veux comme ça va aller vite. J'ai Denilson.
Ouais.
J'ai Ariel Ortega.
Ouais, Ortega.
J'ai
pas D'Alessandro, il fait une carrière de malade avec l'Inter Porto Alegre notamment. Il gagne tout là-bas.
Moi je m'en souviens, pour pouvoir commencer par D'Alessandro, je m'en souviens, il était de la génération avec Saviola, Colocini, Maxi Rodriguez qui gagne la Coupe du Monde d'Argentine en moins de 20. Je sais pas si t'en souviens.
Ouais, je m'en souviens.
Ensuite, il était convoité par la Juve, il part à Wolfsburg, je sais pas si. Ouais, je comprends pas pourquoi. Et après, regarde, Nico, franchement, il va à Portsmouth, il se retrouve au Real Saragosse.
Ouais, mais en Amérique du Sud, il fait une carrière phénoménale. Il est un des plus beaux palmarès. Mais si tu devais en choisir un, tu prendrais qui, Karim? Ton plus gros gâchis? Ortega.
Parce que Ortega, c'est c'était un, franchement un énorme talent. Franchement, pour moi, je me souviens, je l'ai connu à River. Et franchement, il était là à la Coupe du Monde. Moi, je l'ai connu à la Coupe du Monde à River. Il participe à la Coupe du Monde 94-0. Même si l'Argentine, bon, ils sont éliminés en 8e, 98, il est là. Et après, bah, franchement, quand tu le vois, il arrive en Europe et regarde bien sa carrière. Il reste que dans les clubs, je crois qu'il dépasse pas un an. Je sais qu'il a joué à Valence, Fredo, tu vas me confirmer ça.
Ouais, 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 bien sûr.
Il fait un an à Valence, un an à la Samp et un an à Parme.
Voilà, joueur, pour moi, c'est un énorme gars. Ouais. J'aimais bien le joueur. Il y avait un
celui qu'on appelait l'âne, le petit âne.
Ouais.
El Burrito.
Ouais,
c'est un énorme talent, honnêtement, franchement. C'est... Ouais, ouais. Et je m'attendais vraiment qu'il allait faire une énorme carrière. Franchement, lui.
C'est pas bête.
Je suis vraiment déçu, franchement.
Oui, et pourtant, c'est vrai qu'il est près des 90 sélections.
Avec Parme, 99, c'est une des plus grandes équipes d'Europe à l'époque.
Mais il ne marque pas beaucoup avec Parme à l'époque, Simon.
Mais non, mais parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Après, il y a la façon de... Arriver dans une grande équipe à l'époque, Parme l'était, c'est pas impossible. Après, mériter cette grande équipe, il faut avoir des choses qui vont au-delà de la force technique et des qualités.
Mais j'ai joué contre lui quand il était à Parme, mais je ne m'en souviens pas.
Ouais, 99-2000. Ouais.
Ouais, j'ai joué avec les Rangers.
Ouais, c'est possible. Merci à Karim de nous avoir appelé.
Salut, amigo.
Ortega, plus gros gâchis du foot pour Karim qui nous a appelé au 32-16. Laure, alors ça va parler à Fred, toi, ton plus gros gâchis du foot, Laure.
Eh ben moi, mon plus gros gâchis, c'est Brand Krtić. Parce que c'était un joueur qui a été formé à la Masia et qui était annoncé un peu comme le futur Messi. Parce que déjà, il avait un peu le même profil. Un petit gabarit, centre de gravité hyper bas, assez doué techniquement. Et puis surtout, c'est que bah, il correspondait un petit peu aussi au profil de Messi, parce que par rapport à la formation, etc. Et puis surtout, c'est que dès le début, il a eu beaucoup de records à son actif parce qu'il était très précoce. Il avait été le plus jeune buteur en Liga du club. Il avait aussi disputé un match en Ligue des Champions. Il faisait partie des plus jeunes. Et puis, jusqu'à 19 ans, on le voyait vraiment comme un petit crack où il passe la barre des 100 matchs avec le Barça. Et puis derrière, finalement, on va le perdre. Il avait été lancé par Rijkaard. Et quand il va y avoir Pep Guardiola, je pense qu'il va moins rentrer dans les plans de Guardiola. Bah aussi parce qu'il y avait aussi de la concurrence. Hein, faut pas se voiler la face à ce moment-là à Barcelone. Parce que bah, forcément, comme sur le front d'attaque, tu as Messi, Villa, Pedro, tu as Sanchez qui arrive. Il va être vite barré. Et puis derrière, on pourrait penser que même il pouvait rebondir peut-être ailleurs, et il va se perdre un petit peu parce qu'en Italie, il va complètement se planter, il ne passera jamais à la Roma ni à l'AC Milan. Du coup, l'AS Roma va pas lever l'option d'achat, il va revenir à Barcelone, mais Barcelone, bah, il ne rentre toujours pas dans les plans, ils vont l'envoyer à l'Ajax. Et puis bah, derrière, il va se retrouver dans le championnat en Stoke, et là, il va avoir une grave blessure, et finalement...
Mais toi, tu y croyais vraiment, Laure, parce que toi, tu le voyais vraiment comme un crack, ce joueur?
Ouais. Bah moi au début, parce que c'était un peu la génération, les jeunes joueurs, j'aimais bien regarder. Et en fait, je pensais que franchement, sur ses premières prestations, moi je le voyais vraiment comme un grand joueur. Et par contre, maintenant avec un petit peu de recul, je m'aperçois que c'était le profil de joueur qui pour moi s'inscrivait parfaitement dans la philosophie de jeu de Barcelone. Et quand tu vois un petit peu les flops qu'il a fait dans d'autres championnats, bah, tu t'aperçois qu'il était vraiment le morphotype du joueur du Barça, mais que derrière ça a été fondamentalement très difficile pour lui de s'imposer dans d'autres championnats. Et d'ailleurs il en a connu beaucoup, hein, des autres championnats, parce qu'il a fait l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre. Tu sais, aujourd'hui il est à Montréal.
Mais en fait ce qui se passe, c'est que, et lui-même l'a révélé, il avait un gros problème psychologique, il avait des attaques d'angoisse, il avait des angoisses, mais des angoisses à paralyser un mec. C'est-à-dire que psychologiquement, ça a été très très dur tout au long de sa carrière. Et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu disais au départ. Il a été monté en épingle, comme savent le faire les médias espagnols. C'était le nouveau Maradona, quoi. Et ça, il n'a jamais pu le supporter. Donc c'est très dur quand on est dans des pays qui adorent le foot et qui peuvent exagérer sur les qualités d'un joueur. Et ben lui n'a jamais pu tenir il n'a jamais supporté le fait de ne pas concrétiser ce qu'on attendait de lui. Et il a toujours très mal vécu. Et il y a peu de temps, il me semble, en tout cas il n'y a pas très longtemps, il a révélé dans une interview qu'il avait un gros problème psychologique, qu'il avait des angoisses terribles qui lui ont finalement empêché de profiter de ses grandes qualités footballistiques. Parce que je suis d'accord avec Laure, il était vraiment très fort, ce gamin.
Bojan Krikic, le plus gros gâchis de l'histoire du foot pour Laure Le Payeur, pour Roland Courbis c'est Paganelli, pour Simone Rovera c'est Adriano. Dans quelques instants, Lionel Charbonnier va vous donner son plus gros gâchis du foot, ce sera le cas de Julien Laurence, de Fred Hermel également. Et puis on a Pascal et Roméo qui nous attendent aussi au 32-16. Venez les rejoindre. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Nicolas Villas.
Laure Le Payeur, Lionel Charbonnier, Roland Courbis, Simone Rovera, Julien Laurent et Fred Hermel sont également avec nous. On vous lance cette question, suggestion qui est venue sur le hashtag Mon After, qui pour vous est le plus gros gâchis du foot. On va accueillir Pascal au 32-16 et tu vas voir mon Lionel. Je crois que Pascal, son plus gros gâchis du foot, bah c'est le même que toi. Salut Pascal.
Bonsoir.
Salut Pascal.
Salut Pascal.
Alors Pascal, qui pour toi est ton plus gros gâchis du foot ?
Alors déjà la première chose, c'est que moi je suis né en 82, donc c'est j'ai pris parmi les joueurs que j'ai connus, c'est-à-dire à partir des années 90, milieu des années 90. Et en fait c'est un nom qui m'est venu tout de suite quand vous avez fait cette suggestion. Alors pour moi c'est Johan Gourcuff.
Ah bon, on est deux.
Alors pourquoi, vas-y Pascal.
Johan Gourcuff, il me semble que c'était un joueur de la trempe des meilleurs meneurs de jeu qu'on a pu connaître ces deux dernières décennies, quoi. Je me souviens, enfin, quand il était là, quand il était à Bordeaux, Bordeaux était plus fort que la Juve, Bordeaux était plus fort que le Bayern, ils allaient gagner tranquille là-bas, ça étonnait presque plus personne. Et alors, je pense en plus qu'il avait, à un moment, il a dû transcender l'équipe, parce que je me souviens d'un match que Bordeaux joue contre la Juve, où justement il n'est pas là, à Bordeaux, et Bordeaux gagne quand même. Et donc je pense quelque part que toute l'équipe était un petit peu transcendée, et d'ailleurs, il s'est mis à décliner pas longtemps après, et assez vite, c'est le reste de l'équipe qui s'est mis à décliner avec. Voilà, donc moi après, je pense, hein, bon, ça c'est un peu mon avis et on n'est pas forcément d'accord. Je pense qu'il a été un peu cassé par son équipe, hein, son expérience en équipe de France.
Lionel, complète, pourquoi tu as choisi Gourcuff, toi ?
Bah, pour les mêmes raisons que Pascal, je pense qu'on l'attendait. Moi, je le voyais aussi comme pas un Zidane, mais un petit Zidane juste en dessous, c'est-à-dire qu'on perd des Zizou et là tu te retrouvais avec un mec, parce que Zidane c'était vraiment comme être juste en dessous de Zidane, c'était déjà une très très belle carrière, c'est un truc magnifique. Je voyais sa gestuelle, je voyais sa vista, la technique en mouvement, il avait une main à la place du pied, c'était franchement une clairvoyance, il te sortait de situations comme Zizou des fois, juste avec même sans toucher le ballon, juste la gestuelle faisait qu'il embarquait le mec d'un côté. Il partait de l'autre.
Ce qui fait l'année du titre en 2009, c'est époustouflant.
Exactement. Mais ça a été un petit peu le souci. Moi, ce qu'il a perdu après, tout le monde dit c'est son physique. Moi, je dirais c'est son mental et son entourage. Je m'en étais entretenu justement pendant qu'il était à Bordeaux avec Lolo Blanc, et qui me disait il y a quand même un petit souci avec le papa, quoi, qui est trop interventionniste et on sait pas trop.
Penses que c'est ça le problème, vraiment?
Pas que ça, il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi à Bordeaux, Pascal il doit connaître le Calliocho et compagnie,
il s'entendait bien aussi avec
Kavenaghi,
le numéro 9, Chamakh.
Avec Chamakh, donc, ouais. Mais le soir, il s'entendait bien avec Kavenaghi aussi. Moi, je les avais rencontrés. Et ça l'a perdu. Ça l'a perdu à Milan. Ça l'a perdu. J'en ai parlé avec Pippo Inzaghi, avec Rino Gattuso, qui m'a raconté les trucs. Il s'est perdu comme ça. Mais il s'est perdu aussi, et Pascal a entièrement raison. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas le mental assez fort pour affronter cette fosse au crocodile, là, cette fosse au lion, je sais pas, c'est vraiment un milieu de requin, et il a eu en équipe de France un délit de belle gueule. Il était pas dans le même move que les autres, que les Ribéry et compagnie, et ça l'a desservi. Il avait pas le mental assez costaud pour jouer des coudes, et voilà, il est passé à travers comme ça. Mais son mental, voilà, après l'a emmené à droite et à gauche, plus à gauche qu'à droite, et donc son physique n'a pas suivi. Il a craqué de partout et c'était très compliqué pour lui.
Et donc Gourcuff, plus gros gâchis du foot pour Lionel et pour Pascal. Merci de nous avoir appelé, hein, Pascal, au 32-16. Julien Laurence, on va passer à toi, ton plus gros gâchis du foot. T'as choisi qui, Julien ?
Alors moi j'ai choisi Abou Diaby, l'ancien joueur de l'équipe de France, d'Auxerre et d'Arsenal, sûr. Alors j'aurais pu en choisir plusieurs, un peu comme vous tous. C'est vrai qu'en Angleterre ils ont tendance, les Anglais surtout, à dès qu'un jeune arrive, surtout un jeune Anglais, à le à en faire des tonnes et des tonnes, et c'est, parfois ça les dessert beaucoup, mais pour Abis, pour Abou pardon, c'est différent parce que déjà on a été très proche quand il était à Arsenal. J'étais déjà arrivé à Londres quand lui est arrivé en janvier 2006 à Arsenal. Il avait encore 19 ans, il avait pas eu encore 20 ans. D'Auxerre, après deux saisons à peine chez les pros à Auxerre, et c'est vrai qu'il était arrivé tout jeune. Et tout de suite, ce qui m'a frappé, c'est ce que les gens en disaient. C'est-à-dire que d'Arsène Wenger à Thierry Henry, à Gaël Clichy, même aux Anglais dans l'effectif, c'était waouh. C'est quoi ce joueur qui vient d'arriver? C'est un talent extraordinaire. C'est-à-dire que même les joueurs à l'entraînement te disaient après, mais lui, c'est un truc de fou. Ouais. On n'a jamais vu ça. Et donc on a appris à se connaître beaucoup avec Abou. On a passé beaucoup de temps ensemble. J'étais là le jour où tout a basculé finalement, parce que ces 6 premiers mois sont assez encourageants, même très positifs. Moi, je trouve, pour quelqu'un qui a 19 ans, qui a finalement pas beaucoup joué en Ligue 1 et qui arrive à Arsenal et qui commence déjà à s'imposer lors de ses premiers mois, pour moi, c'était déjà énorme. Et puis on va à Sunderland. C'était le 1er mai 2006.
Dans toutes ces blessures, excuse-moi, il y a quand même une explication, une reprise trop tôt, une blessure, une rééducation mal faite. Il y a eu un problème. Il y en a eu beaucoup de blessures, mais les premières qui après malheureusement donnent la possibilité aux autres d'arriver. C'est quoi sa première blessure ou ses premières blessures?
Justement,
il n'y avait pas les aducs.
J'ai arrivé, coach. Non, j'arrivais à la première blessure, okay. Justement, c'est ce 1er mai 2006. Je me rappelle très bien, c'était à Sunderland. J'étais allé à ce match à Sunderland. Arsenal gagne 3-0. Diaby est titulaire, il n'y a aucun souci. Il joue avec Fabregas au milieu, c'est la régalade. Et à l'heure de jeu, un jeune joueur de Sunderland, Dan Smith, entre en jeu. Lui jouait pour un contrat pro. Il n'avait pas encore contrat pro, il était encore pour contrat stagiaire. Il entre et à 2 minutes de la fin du match, il met un tacle à Abou, mais un tacle comme rarement tu vois à ce niveau-là. Une violence, mais une méchanceté incroyable. Et là, tout de suite, Abou, il dit, j'ai senti que la cheville, elle était partie, et j'ai senti que c'était très, très grave. Et effectivement, il y a fracture de la cheville sur ce tacle. En fin de match, tu gagnes 3-0, t'es tranquille, il n'y a plus rien, et le gars, il te massacre comme ça. D'ailleurs, Dan Smith, au passage, pour les auditeurs qui se rappelleraient, aujourd'hui, il travaille dans un centre d'appel dans le nord de l'Angleterre, il n'a jamais fait carrière. Mais en revanche, il a brisé la carrière d'Abou Diaby.
Ouais.
Et bah, c'est peut-être son destin aussi. Et il nous écoute pas ce soir, mais j'aimerais bien qu'il nous écoute parce que j'aimerais bien lui rappeler qu'il a quand même brisé la carrière d'un autre joueur, parce que ce tacle, il est limite inhumain. Et surtout, coach, cette première fracture là, c'est une fracture énorme. Il a 3 opérations après sur cette même fracture, pour essayer de remettre. Et finalement, jamais de cette blessure à la cheville là, jamais le reste du corps va s'en remettre. Après, il aura effectivement les adducteurs. Léo, t'as raison. Il aura les mollets et voilà, tout a compensé après, la droite, la gauche, et puis à un moment, psychologiquement, même s'il a jamais vraiment lâché, il a quand même un petit peu lâché, voilà, inconsciemment et tout ça.
Mais alors, en plus, Julien,
vraiment un joueur. Déjà, c'était.
Non, j'allais dire, Julien, vas-y. En plus, souvent, on parle de l'hygiène de vie, des fréquentations. C'est l'un des mecs, alors, humainement parlant, moi, j'ai la chance de le connaître aussi. C'est l'un des mecs les plus sains que j'ai rencontré dans ce milieu. C'est quelqu'un de lumineux, Abou Diaby. C'est pas quelqu'un de bien. Ça va au-delà de ça. Il y a aucune once de manipulation, de méchanceté chez ce gars-là. Et en plus, il a vraiment une vie hyper saine, quoi. C'est-à-dire, il est très safe, très healthy, enfin, tu le connais très bien, toi aussi, Julien. Tu l'as côtoyé aussi.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est un des premiers à avoir eu un cuisinier qui venait à la maison, par exemple, lui préparer exactement les plats qu'il devait manger le midi et le soir, pour justement avoir la diététique d'un joueur de foot professionnel de très très haut niveau. Donc il a toujours été à ce niveau-là. Il boit pas, il fume pas. Enfin, ça a toujours été quelqu'un de. En plus, il est très très croyant, très religieux. Donc c'est vraiment, comme tu le dis, quelqu'un d'assez incroyable humainement déjà. Mmh. Et puis après, footballistiquement, c'était quelque chose. Et puis il y a par exemple cette saison 2009-2010 où il y a des moments quand même où les blessures l'ont laissé un petit peu tranquille. La saison 2009-2010, il est parfois intouchable. Ça veut dire qu'il y avait des matchs de première ligue où c'était le patron, mais tu pouvais même pas lui prendre le ballon. Il était grand, il faisait 1m80, enfin, il fait toujours 1m92, mais il avait une élégance technique, une habileté technique hors du commun pour un joueur de cette taille-là et de cette puissance physique-là aussi. Et je me rappelle quand Santi Cazorla est arrivé d'Espagne, après son premier entraînement, il a attrapé un joueur, il a dit mais Abou Diaby, mais il est droitier ou il est gaucher ou il est c'est quoi son poste? C'est parce que il était mais abasourdi par le talent d'Abou Diaby, et c'est vrai. Et voilà, moi ça me rend très triste, parce qu'il aurait dû avoir une carrière bien meilleure que ce qu'il a eu, et en plus c'était pas de sa faute.
Moi je me souviens d'Abou, Giroud m'avait dit une fois, il y avait les jeunes qui jouaient, on était au bord du terrain, il me dit regarde-le, le petit là-bas, il avait 16 ans je crois, il jouait, il était surclassé, mais il voulait pas trop le faire jouer en surclassement, parce qu'il était assez frêle, il était grand, il était assez frêle, mais c'était hallucinant. Mmh. Tu ne voyais que lui sur le terrain, et dans la catégorie du dessus. C'est.
Ouais, d'accord.
Ah ouais, non, mais c'était. Il était hors norme.
Abou Diaby, le plus gros gâchis du foot français pour Julien Laurent. Ça aussi, hein, c'est un nom qui est souvent revenu sur le hashtag Mon After. Les noms qui continuent de défiler également sur l'application Direct Studio. Il y a d'autres noms qu'on n'évoquera pas forcément. Christian Val, alors qu'on l'avait annoncé comme étant le nouveau Laurent Blanc. José Touré également, pour le foot un peu plus vintage. Ouais, ouais. Et alors, Adnan qui nous dit, alors ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas développé. Ben Arfa, qui est, alors lui dit, ouais. Pour moi reste le plus gros gâchis du foot français. On va accueillir, tiens, Assad, qui nous a appelé au 32-16. Avant de passer à ton gâchis, à toi, mon Fredo. Salut Assad.
Salut tout le monde, salut la team.
Salut Assad.
Alors Assad, qui pour toi est le plus gros gâchis du foot?
Alors moi c'est pas un gâchis, c'est plutôt un regret. Je vous écoute, en fait vous avez fait à peu près le tour. C'était Ronaldinho, donc c'est assez drôle comme ça, mais c'est vrai que pour moi Ronaldinho c'est un joueur qui est plus fort que Messi techniquement ou Cristiano Ronaldo, mais à cause de son hygiène de vie, il n'est pas resté autant à Barcelone que d'autres grands joueurs. Donc, c'est vrai que pour moi, Ronaldinho, il a gagné peut-être plus des champions. Pour moi, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'après, il est parti au Milan AC. Et puis après, il est parti au Brésil. Mais c'est vrai que pour moi, Ronaldinho, ça reste un grand regret, parce qu'il aurait pu gagner beaucoup plus que ce qu'il a gagné.
Mais c'est tout à fait, c'est vrai, franchement, hein, quand on a commencé à réfléchir à ces missions, l'un des noms qui sont naturellement venus à l'esprit, il y avait Ronaldinho. Comme gâchis, parce que oui, il a fait un ballon d'or, mais il avait 5 ballons d'or dans les jambes. La carrière est trop courte.
Ouais, est-ce que vous ne croyez pas que Ronaldinho, si on lui avait enlevé ses soirées et tout, il l'aurait. Moi, je pense qu'il n'aurait pas eu son ballon d'or si on lui avait enlevé.
Moi, c'est ce qu'il m'a dit.
C'est comme Romario, tous ces gars-là. Ils avaient besoin de soi.
Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Lui, il m'a dit, par exemple, à Paris, il en a souffert beaucoup avec Luis, parce qu'il avait besoin de sortir. De toute façon, il ne dormait jamais avant les matchs. Et il dit, moi, la musique chez moi, ça fait partie de ma culture. Et sans trop faire le con, il dit, des fois j'ai fait le con, il dit, des fois je faisais pas le con, je me couchais, il était 2-3 heures du matin, effectivement, mais de toute façon, même dans mon lit, j'aurais pas dormi. Et il dit, j'avais besoin de ça, au moins, parce que dans mon lit, il se morfondait. Si, c'est ce qu'il m'a
dit. Non, mais je te crois.
C'est ce qu'il m'a dit. Mais non, il n'était pas, et je veux bien le croire, il se mettait pas tout le temps la tête à l'envers. Il se mettait une pression terrible avant les matchs. Il restait vraiment chez lui. Il pensait qu'au match. Il dit, moi, je ne peux pas. Je peux pas penser qu'au match. Et j'ai compris, parce que moi, j'étais pareil. Franchement.
Ouais.
Alors, j'allais pas en boîte. Quoi. Non, j'allais pas en boîte. Mais j'avais comme exécutoire, j'avais les chevaux.
On t'a pas mis dans les gâchis, hein.
J'ai eu peur.
Qui sont les mecs les plus surcotés?
J'ai eu peur. Non, mais là où je le comprenais, tu vois, c'est que le mec, il avait besoin d'autre chose. Alors, lui, c'était la musique. Et puis, bon, parfois, effectivement, il tombait dans l'extrême, mais pas tout le temps. Mais j'ai compris qu'il y en a qui arrivent pas. Ils ont une telle pression. C'était qui avait une pression tout à l'heure? C'était toi, Fredo, qui en parlait, qui avait des angoisses.
Boyan.
Boyan, des mecs comme ça qui ont du mal.
Il y en a quelques-uns comme ça, hein, qui avaient du mal avec l'aspect psychologique.
Effectivement,
Navas, c'est terrible aussi. Ouais,
ouais, ouais, c'est.
On peut parfois, c'est très compliqué. En deux secondes, pour les gens qui ne connaissent pas.
Vas-y Fredo, après on passe à ton gâchis. Merci Assad d'ailleurs de nous avoir appelé.
Ressus Navas, qui aujourd'hui va très bien, il faisait une dépression et des angoisses terribles quand il quittait Séville.
Ouais.
C'est-à-dire que même pour les mises au vert du style des préparations de saison, où il fallait aller en Suisse ou pendant 15 jours dans les montagnes ou en Autriche, mais il faisait de telles angoisses qu'il était obligé de revenir à Séville. À tel point qu'il a failli ne pas jouer, je me souviens plus de quelle Coupe du Monde, il ne devait pas jouer parce que le sélectionneur s'est dit, mais c'est pas possible. Ben non, c'était celle de Corée et de Japon, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, plus tard. Enfin bref, je sais plus laquelle, où finalement le sélectionneur dit je peux pas prendre Navas parce qu'il va nous faire des angoisses. Et Ramos dit, je m'en occupe. Et c'est Ramos qui l'a chaperonné. Et après, il a fait beaucoup de il a fait une psychanalyse, il a été suivi, etc. Et aujourd'hui, c'est un mec qui va très bien. Mais il avait un problème dès qu'il quittait sa famille. C'était un truc qui devenait fou, quoi.
Alors, cela dit, Fredo, toi, ton plus gros gâchis du foot, c'est pas Jesús Navas.
Non, mais je vais commencer par une petite anecdote, justement, si tu me permets.
Vas-y.
Pour moi, ils sont deux qui sont les plus grands gâchis de l'histoire du foot. Ce sont deux joueurs du centre de formation de Cannes, dont Zidane m'a dit un jour, à Cannes, au centre de formation, il y avait deux mecs qui étaient plus forts que moi. Je connais pas leur nom, mais c'est sûrement un gros gâchis qui n'est pas réussi dans le foot.
Ça, c'est de l'anecdote.
Ah, mais je vous jure, hein. Merci. Je vous jure, il m'a dit, tu sais, Fred, et j'ai d'ailleurs raconté dans mon livre, il me dit, tu sais, au centre de formation, il y avait deux mecs qui étaient plus forts que moi. Mais ils n'avaient pas d'hygiène de vie, et ils se sont perdus, ils ne s'est pas concentrés sur le foot. T'imagines les mecs plus forts que Zidane? Et Zidane, c'est pas du genre à baratiner, quoi. Donc c'est, si vous vous reconnaissez, les gars, donnez-nous votre nom.
On vous attend
pour qu'on sache quels sont les deux plus grands gâchis.
T'inquiète, je vais me renseigner, ouais, mec.
Toi, tu dois le savoir, quoi. Mais ça, c'est une histoire vraie. Alors, je pense qu'Anelka aurait pu faire une plus grande carrière que celle qu'il a fait.
Déjà la sienne, hein.
Pas mal, mais je pense que le talent qu'il avait, il aurait pu aller encore plus loin. Alors, pour moi, c'est un Anglais qui était appelé à devenir le défenseur galactique. Jonathan Woodgate, c'est un nom qui ne dira pas grand-chose à grand monde. Julien, bien sûr, le connaît. Il est à l'époque recruté en 2004 par le Real Madrid des Galactiques. 22 millions d'euros, ce qui à l'époque est beaucoup, beaucoup d'argent. Florentino Pérez veut faire un coup. Veut faire un coup en disant, voilà, c'est lui le futur grand défenseur de l'histoire, quoi. Voilà, c'est vraiment le... Et puis Jonathan Woodgate ne joue pas un seul match lors de sa première saison. Pas un seul. Là aussi, physiquement, psychologiquement, ça tenait pas beaucoup.
Et il avait tout le temps
des blessures. Il avait coûté très cher. Il avait du mal à assumer le prix de son transfert. Il avait du mal, comme beaucoup d'Anglais, à vivre en Espagne, à vivre en Liga. Et il a accumulé des blessures musculaires pendant un an. Il commence un an plus tard, en septembre, contre l'Athletic Club de Bilbao, donc il est là depuis plus d'un an. Premier match, il met un but contre son camp et il prend deux jeunes et l'expulsé. Non, mais c'est un truc de fou. Il ne joue que
tu comprends mieux pourquoi ils l'ont pas fait jouer.
Non, mais t'imagines le gâchis de le truc.
Il rentre dans la maison et trouve sa femme dans le lit.
C'est pas possible. Le mec a scoubone total. Il ne jouera en tout et pour tout que 14 matchs au Real Madrid. Il sera prêté à Middlesbrough et ensuite vendu à Middlesbrough. Mais ça restera comme le plus gros gâchis de l'époque des Galactiques. Et Florentino Pérez, après cette mauvaise expérience, a mis beaucoup d'argent sur un petit jeune défenseur espagnol qui a coûté aussi cher que Woodgate. Mais lui, ça a pas mal marché. Il s'appelle Sergio Ramos.
Ouais. C'est lui. Voilà. Ouais, Woodgate. Moi, je m'en souviens, moi, de son transfert.
Vous en souvenez, mais à l'époque, c'était une star.
À l'époque. Ouais, et de son match, tu t'en souviens? Parce que lui doit s'en souvenir.
Contre Bilbao, bah ça.
Là, j'étais en train de regarder, mais le mec, en 3 ans, il fait 14 matchs au Real. C'est quand même dingue.
14 matchs.
C'est dingue, quoi.
Le mec, pour le remettre le coup d'après. Hein.
Ça, c'est fou. Bah
ouais, non, mais t'imagines le terrible. Et je sais pas, Julien, ce qu'on disait, il a joué en équipe nationale anglaise.
Hein. Ouais, il a 8 sélections.
Il a fait 8 sélections. Et puis après, il fait une très bonne saison à Tottenham. Après Middlesbrough, il rebondit plutôt bien à Tottenham, notamment où il fait une bonne saison quasi pleine à 34-35 matchs, je crois. Mais effectivement, il avait beaucoup de talent, mais mentalement, ça n'a jamais suivi. Et puis effectivement, t'as raison. Pour les Anglais d'aller à l'étranger à cette période-là, c'était toujours très compliqué et c'était sûrement le mauvais choix, même si je me rappelle qu'il avait expliqué que tu pouvais pas non plus dire non au Real Madrid.
Tu sais, on parle des blessures musculaires, on parle psychologiquement. La somatisation, c'est quelque chose qui existe vraiment. Enfin, dans nos vies personnelles, on connaît tout ça, et les sportifs encore plus. Quand ça va pas dans la tête, ça arrive souvent de se faire des claquages, quoi. Enfin,
bien sûr, on sait,
vous les foutez, mais c'est vraiment
un truc qui existe.
La peur, ça c'est sûr.
Les gars, merci d'avoir été. Pour finir, vas-y, Laurent.
C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préparateurs mentaux qui arrivent dans le milieu du football et dans le sport de façon générale. C'est forcément un paramètre sur lequel il faut travailler. Ouais. Parce que tout est lié.
Simone, Julien, Fred, merci d'avoir été avec nous, les mecs, pour nous donner vos plus gros gâchis du foot dans quelques instants. Le quiz nous attend. Voilà, le quiz au 32-16. Vous allez voir avec un quiz qui forcément est lié aux thématiques qu'on a développées hier et aujourd'hui grâce au hashtag Mon After. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Lionel Charbonnier, Laure Lepaille, Roland Courbis, avec vous également sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio. Tiens, tout à l'heure, il y avait la petite anecdote, vous savez, de Fred qui nous disait Zidane avait joué avec deux mecs au centre de formation de la X-Can qui étaient plus forts que lui. Eh bien, elle sert à ça aussi, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio, elle sert à ça aussi. Apparemment, c'est ce que nous dit Trice Vance, c'est Kershawi, apparemment, ancien capitaine d'Aubervilliers, numéro 10 et gaucher. Voilà, faudrait demander à coach. Pour amener ta petite enquête, coach, visiblement. Oui. Voilà, il s'appelle Kershawi.
Déjà, je connais. Mais bon, je crois que Zizou a un peu exagéré quand même. Mais il était très fort.
Il était bon, jeune Kershawi.
Ouais. Ah oui.
Messieurs, on va passer, messieurs, dames, on va passer au quiz avec Thomas et Damien. Salut les gars.
Salut.
Salut les gars.
Damien, tu vas être avec qui? Alors, celui qui choisit, il n'aura qu'une personne dans son équipe, hein, bien sûr. Damien, tu vas être avec qui?
Allez, moi je fais Lionel.
Mais non,
Lionel,
t'aurais pas dû.
Ok, Lionel, Thomas, tu seras avec Laure et Roland.
C'est gentil,
dames,
mais bon.
Messieurs, dames, on passe au quiz.
Non, mais c'est naze ce quiz. Vas-y, coupe-moi le micro, je joue plus.
Oh, Jérôme, arrête de chialer.
Alors, c'est de la merde.
Alors, bien entendu, quiz en rapport avec l'actualité de ces deux derniers jours dans l'after, bien sûr. Ces joueurs à qui on prédisait un si bel avenir. Quel est le dernier club de Johan Gourcuff?
Dijon.
Roland. Dijon, 8 matchs. Dijon.
Voilà.
Il a fait 8 matchs.
C'est vrai qu'il a même la stat. Non, on s'en fout, c'est Roland.
Ah, bah attends, de Rennes, j'ai suivi quand même son parcours et il s'est arrêté à Dijon.
C'est vrai, Dijon, c'est bon. 1-0 pour Thomas. On disait de moi que j'étais un grand espoir. Qui suis-je? Voici mon parcours. Guingamp, Marseille, FC Porto, Stoke City.
Imboula.
Bravo, bravo Lionel. Bravo. Voilà. Stoke
bien
City.
Joué, Lionel.
Toulouse, Rayo Vallecano. Et son dernier club, c'est quoi?
Tu veux pas le nombre de buts aussi?
Tournemousse.
Comment? T'as dit quoi?
Tournemousse, non?
Non.
Non, en Italie.
Ouais. Sagna a joué là-bas.
Benevento.
Ah non, c'est pas. Non, c'est une connerie. C'est pas
Lecce.
Brescia.
Ouais, Lecce. Qui a dit Lecce?
Lecce,
ouais.
Lecce, Roland.
Roland, 2-1. Ouais, j'ai dit une connerie, moi. C'est pas Benevento. Quel joueur a remporté le premier trophée de meilleur espoir du championnat de France des trophées UNFP?
Zizou.
Bravo Roland, Zizou. Voilà, en 94, c'est le premier joueur. Comme quoi, les mecs, ils sont bons. Quand vous regardez la liste d'ailleurs des trophées des espoirs UNFP, bah, c'est surtout des mecs qui ont fait une belle carrière derrière. Alors lui, on l'a pas cité non plus dans ces joueurs qui auraient pu faire une plus grande carrière encore. Il a fait une belle carrière, cela dit. Dans quel club joue aujourd'hui Robinho?
Il est au Brésil.
Ouais, alors bien joué. Bachak Cheyenne. On sent
la Ligue Europa.
Voilà. On sent la meuf qui est sur la Ligue Europa. Tous les jeudis soirs sur RMC Sport 1, hein, bien entendu.
C'était pour toi celui-là.
Voilà, avec un excellent mec présentateur. Qui suis-je? Voici mon parcours. Écoutez bien. Bordeaux, Lorient, Manchester United.
Faubert.
Bravo. Ah non, non. Non, non. Oui, Aubertan. Laure. Bravo. Bravo, Laure. Aubertan. Non, non.
4-1.
5-1 pour Thomas.
Bravo,
Laure. Ça, Damien. Bravo, Laure.
Laure, c'est un puits de science.
Oh, mais Laure, on soigne le goal à virage, là.
Ouais, on soigne.
Alors, lui aussi, on disait que ça allait être un très, très grand joueur également. Et pourtant, il n'a pas fait la carrière qu'on lui prédisait. Dans quel club français a joué Freddy Adou?
Monaco.
Oui, bien Monaco, joué, Lionel. Ouais. Ouais, bravo. 5-2, ils reviennent. Monaco. Souvenez-vous de Freddy Adou.
Tu peux répéter?
Dans quel club français?
Il a joué au Benfica aussi, non?
Ouais. Mais quel club français a joué Freddy Adou? Il était au Benfica avant d'aller à Monaco.
Je m'en rappelle pas.
Ah bah en même temps, il a fait 10 matchs, Roland. Il a fait que 10 matchs il y a 12 ans. Donc c'était en 2008-2009, 10 petits matchs.
Il est retourné aux États-Unis.
Et il est retourné. Alors attends, tu sais qu'il a bourlingué. Je crois qu'il a joué en D2 finlandaise, il a joué en D2 serbe, ouais, il a fait un nombre de pays, il a fait le Brésil, il a fait. Bref,
même là-bas, il joue pas.
Qui sait son agent, par contre. Mais...
Moi non plus. Mais je crois que lui non plus, c'est pas d'ailleurs. Hein, parce que vu où il a joué, le mec, depuis.
Roland, c'est.
Alors, autre nom d'ailleurs qui revient, qui est revenu de temps en temps également sur le hashtag Mon After concernant les gâchis du foot. Ces joueurs également qui auraient peut-être pu faire une carrière encore plus belle. Voici son parcours, faut le retrouver. San Paolo, Betis, Bordeaux.
Denilson.
Oui.
Denilson.
Qui a dit Denilson?
Damien.
Damien, voilà. 5 joueurs reviennent, bravo.
Bien joué, Damien.
On est là, Lionel. On est là, on est là.
Il a fait le Flamengo. Mmh. Il a fait l'Arabie Saoudite, Al Nassr. Il a fait le FC Dallas, Palmeiras, Itoum Biara. Il a joué au Vietnam même. Il a terminé en Grèce, à Kavala. Club où a joué l'un de nos consultants. Ah, ils savent pas, c'est Pierre Ducrot. Tant pis, c'est pas grave, ça comptait pas.
Si, si, on savait, mais on pensait pas que c'était une question.
Alors, certains d'entre vous ont cité le nom parmi les gâchis du foot de Christophe Dugarry. Voilà, il disait qu'il avait un talent. Alors, c'est vrai, Roland, d'ailleurs, il paraît que c'était l'un des plus doués de sa génération, hein, Christophe Dugarry, hein, quand, en jeune.
C'est, hein. Vrai, c'est vrai qu'il était doué.
Ouais.
Il y en a qui l'appellent Dugarry, c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est, attends, il a fait une belle carrière.
Il a fait une belle carrière, mais certains disent qu'il aurait peut-être pu faire une plus belle carrière encore.
Je pense, moi aussi.
Bah voilà, Roland,
je le pense, moi aussi.
Dans quel club anglais a joué Christophe Dugarry?
Birmingham.
C'est qui le premier? Arthur.
Birmingham. Ah.
C'est qui, ouais. Arthur?
Attends, tu regardes, je dis Bir avant tout le monde.
Et moi aussi, j'ai dit Birmingham.
Après, on
dit.
Fait quoi là, Arthur? On l'annule celle-là?
C'est Damien.
Non, je l'ai dit deux ans après, avant les gars, deux ans avant.
Damien?
C'est Damien.
Ouais, j'ai entendu la voix.
Putain, 5-4, ça remonte la remontada, c'est merveilleux.
J'ai entendu. Bien joué, Damien.
Je suis là.
On s'est battu là-dessus.
Voilà son parcours une nouvelle fois. Faut le retrouver, ce joueur. Châteauroux, Lens, Marseille, Paris Saint-Germain.
Le Roi?
Non. Inter Milan, Tottenham.
Dalmat.
Oui, qui a dit Dalmat?
Je suis Damien.
Oh. Damien qui revient à 5-5.
Je suis supporter de Lens en même temps.
Là, il n'y a plus de goal à virage.
Dalmat, faut le trouver celui-là.
En même temps, t'aurais dit son club actuel, j'aurais trouvé, mais...
Bah son dernier club, vous vous souvenez, à Dalmat, ça compte pas.
C'est Montlouis-sur-Loire actuellement.
Le dernier club de Dalmat, vous savez ce que c'est? C'est Nîmes. Ouais, moi non plus, je m'en souviens pas de ça.
Ouais, je m'en souviens pas.
Ouais, c'est vrai. Et il a joué? Il jouait vraiment là-bas?
Bon, en tout cas, il est passé là-bas. Il a été.
Qu'est-ce que c'est? Et là, actuellement, il joue à Montlouis-sur-Loire, il en a 3 clubs en un an.
Ah bah voilà. T'es au taquet, t'es là. Tiens, autre nom qui est souvent revenu également parmi ces joueurs qui auraient pu faire une carrière encore plus forte, Ricardo Quaresma, voilà, qu'on disait le plus talentueux de sa génération. Il y avait quand même Cristiano Ronaldo dedans. Dans quel club? Ouais, j'aime bien, ouais. Dans quel club anglais a joué Quaresma?
Chelsea.
Oui, il a joué, Roland. 6-5, il reprend, Thomas reprend la main. Tiens, hier, on avait fait également, on avait développé une autre thématique avec le drôle de dame. C'est derby méconnu. Petit quiz spécial derby. Alors, je vais vous donner, non, vous allez voir, c'est sympa. C'est pas si compliqué.
Je vais vous donner. Vous ne connaissez pas les équipes.
Je vais vous donner le nom d'un club, il faut me donner la ville. Ok? Vous l'avez ou pas?
Ok.
Bon, c'est pas si compliqué. Servette.
Genève.
C'était qui?
Genève.
Roland.
C'est moi, c'est l'or.
Ouais, bah c'est pareil, dans la même équipe, ok. Deux points d'avance pour vous. Quelle est la ville du club de Levante?
Valence.
Qui a dit Valence en premier?
Thomas.
Trois points d'avance, Thomas.
Bien joué, Thomas.
Plus compliqué. Quelle est la ville du club du Zamalek?
Le Caire.
Bravo, qui a dit Le Caire? Damien ou Thomas?
Non, c'est pas moi.
C'est Thomas. T'es Thomas? Ah. Ok, 4 points d'avance, Thomas.
Aïe. Bien joué.
Aïe.
Le Raja.
Casablanca.
C'est qui?
Damien. Roland.
Damien, il revient.
Non, bah t'as
dit. Non, il était avant,
il a dit. Désolé, coach. Je l'ai dit
avant. Je te fais un pari sur deux trucs.
Ça fout toujours la merde, des couilles. Attention, on continue. Il y en a plein, il en reste plein, vous inquiétez pas. La ville du club. Du Ferencváros.
Budapest.
Bravo, qui a dit Budapest?
Thomas,
il est là.
Bien joué, Thomas.
Quelle est la ville du club d'Aston Villa?
Birmingham.
Oh, c'est qui?
Damien. Thomas.
Quelle est la ville du club de Fluminense?
Rio de Janeiro.
Voilà, qui a dit Rio?
C'est vrai.
Thomas, il est là, hein, Thomas, encore.
En fin de compte, t'es fort en géographie, quoi.
Ouais, c'est et géographie.
Tiens, on va compliquer.
Bien joué, Thomas.
On va compliquer un peu. Je veux la ville du club, chaque nous le fire.
Gelsenkirchen, Damien.
C'est Damien le premier?
Ouais, Gelsenkirchen.
Ok, Rosenborg.
Tromsø.
Tromsø, c'est un autre club, c'est une autre ville.
Trondheim.
Ouais, qui a dit Trondheim?
Damien.
Putain, il est là, on revient.
C'est pas Damien. Non, c'est
bravo.
C'est pas des noms, c'est des insultes.
Il m'a mis sur la voie.
Espèce de Trondheim.
Il m'a mis sur la voie.
Allez, Damien.
Ah, tiens, celui-là. Colo Colo.
Santiago de Chile.
Ouais, qui a dit ça?
Thomas,
t'es là.
Joué, mec.
Bravo.
Tiens,
regardez. Je vais vous en donner, j'ai quoi là? Ah tiens, je vais vous donner son parcours, tiens également, puisqu'on était hier dans les histoires des derbies, des mecs qui ont joué dans des clubs qui sont rivaux. Je vous donne son parcours, il faut me retrouver ce joueur. Cologne, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Pumas. Cologne, Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Pumas. Il est devenu entraîneur ce joueur aussi par la suite. Putain, et Arthur Robert l'a trouvé, les mecs.
Oui.
Si Arthur Robert l'a trouvé, vous pouvez le trouver, je vous le dis tout de suite.
Donne d'autres indices, un truc, je sais pas, comment il jouait.
Il était, vous vous doutez bien, il a débuté au FC Cologne, donc il est allemand. C'était un très beau joueur.
D'ailleurs, quand année
c'était dans les années 80, 70-80. Quand il est parti en Espagne, en gros, la
Schuster.
Ouais, bravo Lionel. Voilà.
Oh. Bien joué Lionel.
Ouais, j'ai internet.
Il a gaugé, moi.
Ah, tricheur.
Schuster.
Luis Enrique a joué au Barça et au Real. Ok, deux clubs rivaux. Dans quel club a-t-il été formé?
Barça?
Non.
Valence?
Real? Non.
En Espagne?
Séville?
Ouais. C'est un club qui est plus en Liga aujourd'hui.
Mallorca,
Rijon. La Corogne. Ouais, qui a dit Rijon?
Damien,
ok, tu reviens à 3 points.
Oh, qui est 3 points? On en a marqué 2 de suite.
Ouais, mais justement, vous avez 3 points d'avance, les mecs.
Non, pas d'avance.
Qui est 3 points d'avance?
Thomas, t'as 3 points d'avance.
Ah ouais?
Encore?
Ouais, c'est ça.
Bah oui, quand même.
3, ça fait beaucoup, les gars.
Ouais, c'est beaucoup, mais c'est encore remonté.
On va revenir.
Attention, on continue. Quelles équipes opposent le derby de la Lanterna?
Bergame?
Non.
C'est quoi l'accent, là?
C'est accent italien.
Ah ouais.
Il derby de la Lanterna.
Ciao, buonasera. Brescia.
Non.
Oh. Vérone?
Non. C'est deux clubs Cagliari. De la même ville. Hein. Non. Vraiment de la même ville. Ils sont tous les deux en série.
Sampdoria.
Genoa.
Qui a dit Gênes?
Genoa et Sampdoria. Damien.
Oh, il revient à 2 points, Damien. C'est merveilleux.
Mmh.
Ah oui, tiens, celle-là, je l'aime bien. Alors, un derby dans le sens pur du terme, hein, c'est-à-dire qui oppose deux clubs de la même ville, on est d'accord, c'est ça le vrai terme derby. Mmh. Quel a été le vrai dernier derby au niveau professionnel en France? C'est pas si compliqué que ça. Au niveau professionnel...
Paris Racing?
Alors, non, c'est pas... Non. Au niveau professionnel...
Paris FC Red Star?
Non, pas vraiment, parce que c'est Saint-Ouen, le Red Star, donc c'est pas Paris. C'est vraiment pour les puristes. Deux clubs de la même ville qui sont affrontés. Non.
Matra Paris. Ajaccio contre Ajaccio.
Ouais,
Gazélec, oui. Ajaccio.
Bravo, qui a dit ça?
Thomas.
Bravo Thomas.
Et moi que je trouve pas ça, bravo Thomas.
Ah, celle-là, j'aime bien aussi. À Londres, il y a le North London Derby entre Tottenham et Arsenal. Un Français est passé des Gunners aux Spurs. Qui est-ce?
Galas.
Bravo.
Galas.
Qui a dit Galas?
Thomas.
Tous
les deux.
Ah, il est fort, Thomas.
Ok, toujours sur Galas. Quel est le club formateur de William Galas?
Marseille.
Oui, Gang. Bravo, Roland. Roland,
quand? Damien. Non, je l'ai dit avant Roland.
Non, mais attends, là, tu... Là, je te fais un pari sur 3 points, tiens.
Moi, je te fais un resto, moi.
Oui, à ce moment, oui.
Il est pas con, hein, tu penses bien. Tiens, un autre joueur est passé de Tottenham à Arsenal. Emmanuel Adebayor. Dans quel club joue-t-il aujourd'hui? Alors, je vais être sympa.
Turquie, Başakşehir?
Non.
Istanbul Sport?
Non, je vais être sympa. Dans quel pays il joue aujourd'hui?
En Inde?
Turquie?
Non.
En Inde?
Non, ça fait un gros buzz.
Chine?
Non. Ça fait un gros buzz, d'ailleurs, quand il est parti là-bas.
Adebayor?
Ouais, il est parti dans un club. Il a fait d'ailleurs son premier match, je crois, en Copa Libertadores. Ça, c'est un bel indice. Il a pris un. Il a fait
Argentine.
Un
tac.
En Argentine?
Non.
Au Chili? Au Pérou?
En Uruguay?
Non.
Paraguay?
Oui. Qui a dit Paraguay?
Moi.
Lionel? Ouais, c'est au pif. Hein, t'es là.
Libertadores, ouais, c'est
bien joué, Lionel.
Par là-bas.
En Écosse.
On est revenu à un point.
En Écosse. Non, peut-être pas, non.
Deux,
en Écosse.
On est à deux?
Non, un peu plus.
Je fais des bâtons, hein.
Rangers et Celtic sont les deux grands rivaux de Glasgow, on est d'accord?
Ouais.
Quel est le dernier club sacré champion d'Écosse hors Celtic et Rangers?
Aberdeen.
Comment?
Aberdeen.
Qui a dit Aberdeen?
Moi, Thomas.
Thomas. Aberdeen, bravo, en 85, hein, ça remonte.
Putain,
quand même,
il est chaud, mec. Thomas. Oh.
Et qui était le manager d'Aberdeen? Qui était le manager d'Aberdeen à l'époque?
Ferguson.
Bravo, Roland. Ferguson, bim, ça c'est fait. Alors on a le temps encore pour une. Tiens, on va se faire un vrai ou faux, les mecs.
Faux.
Ouais.
Roulen Lopetegui, qui entraînait le Real Madrid, a été joueur du Barça et du Real. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Vrai.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Qui a dit vrai en premier?
Thomas.
Oui.
Ouais, bravo Thomas. T'es là. Chris. Le FC Barcelone a été fondé par un Suisse. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Vrai.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, absolument, c'est vrai. C'est grand peur.
Ouais.
Vous avez gagné, Damien. Bravo, Damien. T'as gagné. T'as gagné un t-shirt de l'After. Bravo les mecs. Merci.
Bravo Damien.
Qui a dit
qu'il
a gagné?
Qui a dit qu'il a gagné?
Non, c'est bien joué Damien.
Bravo.
Bien joué Damien. Tu as gagné le droit de revenir, mon poulet. Merci, je dis n'importe quoi. Merci Lionel.
Bien joué Thomas.
Tu t'es trompé, t'envoies. Les gars, je peux faire une petite dédicace ou pas?
Vas-y, vite.
Un petit dédicace à toute ma famille qui m'écoute, à Julien, Mickaël, Jocelyn, et puis à tout le monde qui me reconnaîtra.
Et bah ça marche.
Et puis allez les Verts.
Et bah ça marche. Merci beaucoup Thomas. Allez. Et Damien. Merci
salut
Lionel,
les mecs.
Merci Laure, merci à Roland.
Tous.
Merci d'avoir
salut
été avec
les
vous.
Amis.
Merci Daniel Torres qui a réalisé cette émission. Merci Arthur Robert qui nous a aidé à la réaliser. Et puis nous on se retrouve demain à 22h. Merci.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.